France Inter.
Parmi les découvertes les plus surprenantes de la physique moderne, si ce n'est la plus surprenante, il y a le fait que le temps ne fonctionne pas comme nous le pensons habituellement. Il n'est pas uniforme, par exemple. Il s'écoule à des vitesses différentes selon l'endroit où nous nous trouvons et la façon dont nous nous déplaçons. Dans le film Interstellar, le héros voyage près d'un trou noir et à son retour, sa fille est plus âgée que lui. C'est une vieille dame, alors qu'il est encore dans la force de l'âge. Eh bien, ce n'est pas une invention hollywoodienne. Le monde fonctionne vraiment ainsi. Carlo Rovelli est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « Écrit vagabond au pluriel ». Et comme chaque soir, on va commencer en musique avec Janis, la grande Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Enough for me and my Bobby.
Sommes-nous, nous, les êtres humains? Je vous pose la question, puisque vous la posez dans votre avant-dernier livre, Carlo Rovelli. Que sommes-nous? J'adore cette chanson, j'adore Janis Joplin. Ah, nous sommes des vagabondes, comme dans la chanson de Janis Joplin. Nous sommes des morceaux de nature, je pense. Nous sommes une de ces innombrables formes que la nature a produites dans sa variété immense. On est chez nous dans la nature.
Oui, enfin oui, on est chez nous dans la nature, mais on ne se préoccupe pas beaucoup de la nature.
Et non, ni la nature s'occupe de nous, finalement.
Oui, mais c'est à nous de s'occuper de la nature. C'est pas à la nature d'être hospitalière avec nous.
Ben oui, non, certainement. Sinon, ça nous balaie comme elle a fait avec plein d'autres espèces, sans doute. C'est à nous de nous préserver, nous-mêmes. La nature va continuer, même sans nous. C'est pas la Terre va continuer aussi quand nous on sera plus là. Mais sans nous, si on n'est pas plus attentif.
Ben justement, il faut être attentif. Et à l'intérieur de votre dernier ouvrage, dans le dernier chapitre, vous vous mettez en colère en tant que scientifique, en tant que physicien moderne, Carlo Rovelli, contre l'absence de prise en charge des tutelles politiques par rapport au climat.
Oui, et la responsabilité, c'est de chacun de nous, parce que les politiciens vont réagir au moment où un nombre suffisant d'entre nous vont reconnaître ça comme une priorité absolue.
Comment expliquez-vous, en tant que grand physicien, Carlo Rovelli, le fait que durant le siècle écoulé, je parle du XXe siècle et de ce début du XXIe, les hommes aient été si peu soucieux de préserver cette même nature? Et à l'intérieur de notre civilisation, on n'a jamais autant porté atteinte à cette nature.
Mais je pense que ça n'a pas été de la malice. Ça a été ne pas se rendre compte. Quand on était beaucoup moins, et ça fait pas longtemps parce que on se multiplie énormément, on se rendait pas compte qu'on était en train de changer la Terre si fortement. Donc finalement, on avait l'impression que la Terre, c'est immense, c'est infini, on peut jeter ce qu'on veut, on peut utiliser ce qu'on veut, on peut détruire les forêts, il y en a toujours des autres. Ça a pris du temps pour se rendre compte qu'on est vraiment en train de modifier la planète de façon substantielle. C'est passé dans les dernières années. Je pense, moi aussi, il y a 30 ans ou 20 ans, j'avais l'impression que bon, le planète va continuer comme maintenant pour nous, rien va changer. Mais maintenant, on se rend compte que c'est pas vrai du tout.
Comment comprenez-vous que nous habitons le temps différemment, vous et moi? On vit pas dans le même temps. Là, on est en direct. On peut croire qu'on vit dans la même temporalité, mais c'est pas vrai.
Exactement, c'est pas vrai. C'est presque vrai. Parce que finalement, penser qu'on est dans le même temps, c'est une très bonne approximation. Je vous vois, vous me voyez, on est tous les deux là maintenant. On voit une grande horloge là dans le studio de France Inter. Il y a l'horloge qui montre l'heure. Et on a une idée du temps qui marche très bien pour ce qu'on fait. Mais c'est très approximé. Par exemple, vous me voyez, mais il y a 2 mètres entre nous. Et donc, la lumière prend du temps pour faire ces 2 mètres. Et ça prend quelques nanosecondes. C'est petit, on le voit pas, mais c'est réel. Donc, vous ne me voyez pas dans le présent, vous me voyez dans le passé. Et moi, je vous vois dans le passé. Donc, finalement, il y a un décalage continu entre nous. Et si on était beaucoup plus lointain l'un de l'autre, ce décalage serait beaucoup plus fort et ça n'aurait aucun sens de dire qu'on est dans le même présent. Et finalement, moi je trouve que ça c'est la découverte la plus fascinante de toute la physique moderne. C'est pas une découverte de maintenant, ça fait plus de 100 ans qu'on le sait, mais ça a pris beaucoup de temps de l'intégrer, le digérer, de le voir. Et la découverte est que l'idée même de présent, de maintenant, c'est une approximation. Il n'y a rien dans la nature comme le présent, le maintenant. On ne peut pas se demander de façon significative qu'est-ce qui se passe maintenant sur une galaxie lointaine. Moi, je peux me demander de façon significative qu'est-ce qui se passe maintenant à vous, parce que je vous vois.
Mais c'est à cause du fait que je ne pense pas à ces nanosecondes de différence. Pour une galaxie lointaine, par contre, c'est des millions d'années le temps de voyage de la lumière. Et donc, le présent à nous n'a rien à voir avec le présent là. Il y a des présents locaux, mais pas un présent de l'univers.
Mais il y a des présents différents géographiquement parlant. Dans l'ouvrage précédent que vous avez publié, qui s'intitule « L'ordre du temps », vous nous racontez que selon qu'on vive dans une montagne ou dans une plaine, nous ne percevons pas et nous ne vivons pas le temps de la même manière. Pourquoi ?
Oui, c'est un fait, c'est quelque chose qu'on peut mesurer.
C'est une vérité.
Oui, c'est une vérité, on la mesure pas seulement entre montagne et à côté de la mer, mais même sur la table et par terre. Si je mets une horloge sur la table et une horloge par terre, et j'attends un peu de temps, et quand je les remets ensemble, l'horloge sur le temps a mesuré plus de temps. Donc finalement, notre tête vit un peu plus que nos pieds. Sauf si on passe la vie avec les pianos. Et ça, c'est un fait, c'est dû à l'effet de la Terre, la gravité de la Terre, la masse, la grande masse de la Terre, ça ralentit le temps. C'est un effet très petit, évidemment, on le perçoit pas dans notre vie quotidienne. Mais avec des horloges très précises, on le perçoit. Et près d'une grande étoile très lourde, ça devient beaucoup plus fort. Près d'un trou noir, ça devient extrêmement fort. Donc cette idée que nous avons du temps qui est le même partout, c'est une idée fausse. C'est comme la Terre plate ou comme la Terre qui bouge pas. Ce sont des idées naturelles, bonnes pour notre vie quotidienne, mais ne deviennent pas bonnes du moment qu'on regarde un peu plus distant. Si on va sur la Lune, on voit très bien que la Terre tourne. Et comme ça, si on a des horloges plus précises ou si on pouvait aller près d'une étoile beaucoup plus puissante, on pourrait voir très bien que le temps est très différent, marche de façon très différente de notre intuition.
Et ça, vous le pensiez quand vous étiez enfant, déjà vous aviez cette perception de ce décalage du temps?
Non, pas du tout. Ça a été une surprise pour moi. Quand j'étais enfant, toute notre vie, je pense, c'est une lente découverte. Même la vie des quotidiens, pas seulement les scientifiques. Quand on est enfant, on a une idée du monde, et après on sort de chez nous et on découvre qu'il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons de penser. C'est la beauté de grandir et de découvrir.
Et vous aviez une famille de scientifiques qui a accentué votre vocation quand vous étiez jeune, Carlo Rovelli ?
Non, pas vraiment. Mon père, c'était un ingénieur. Il avait son propre business, sa propre compagnie. Donc pas du tout scientifique. Ma maman, c'était les années 50 quand je suis né. C'était un autre monde. Elle était à la maison. C'était femme à la maison. Et elle était éduquée, elle avait une bonne éducation, elle était très curieuse, très intelligente, mais pas du tout scientifique. Je pense qu'il avait quand même un grand respect pour la science, et je l'ai absorbé. Et chez moi, il y avait une énorme quantité de livres. Moi, j'ai toujours lu. Quand j'étais jeune, j'ai lu. Quand j'étais adolescent, j'ai lu. Durant toute ma vie, j'ai continué à lire. Et donc cette sensation de pouvoir découvrir de plus en plus à travers les livres, je l'ai eu toute la vie. Et l'humanité entière, je pense, a le même parcours. La science, c'est pour l'humanité comme un garçon qui apprend. On pensait que la Terre est plate et on a appris que la Terre est ronde. Et comme ça. Et on pensait que le temps était simple et on découvre que le temps est complexe. C'est la beauté de la science. La découverte continue et on n'est jamais à la fin.
Vous êtes devenu l'un des physiciens modernes les plus importants. Vous êtes auteur de livres qui se vendent dans le monde entier. Vous avez, avec Lis Molin, inventé la théorie de la gravité quantique à boucle. Mais auparavant, avant de devenir cet immense professeur, vous avez été un étudiant engagé. Dans ce dernier ouvrage, vous parlez de cette grève qui, en 1977, a affecté les étudiants. Et vous dites que vous vous opposez à ce qu'il en est dit encore aujourd'hui. Comment l'avez-vous vécu, cette intense grève qui a duré plus de 6 mois dans votre propre pays, l'Italie?
C'était l'année 77 et il y a eu des émeutes dans le monde étudiant. C'était un peu la dernière vague peut-être liée au 68 en France. C'était un mouvement un peu politique, un peu culturel, un peu hippie, un peu contre-culturel dans le sens large. Et c'était la période où il y avait une grande quantité de jeunes dans le monde entier, en France comme en Italie, comme en Chine, comme en Mexique, comme en Afrique du Sud, comme plein de pays, à Prague, qui rêvaient d'un monde meilleur, beaucoup plus juste, beaucoup plus pacifique aussi, et sans des guerres, sans des injustices, et dans des façons très différentes, toute cette jeunesse pensait qu'on allait construire un monde beaucoup plus gentil, je dirais. C'était l'enthousiasme de la jeunesse, c'était la beauté de rêver un monde meilleur. C'était aussi une grosse déception après, parce que le monde finalement a pris bien autre direction ensuite. Moi, oui, j'étais engagé dans plusieurs façons. J'étais engagé politiquement à ce temps-là. Et aussi, c'était pas l'école qui m'intéressait. C'était le monde. J'ai voyagé énormément. J'ai passé un an en voyageant dans le monde. je lisais énormément. L'école, c'était pas intéressant. L'université, c'était pas intéressant. Il y avait trop de choses intéressantes dans le monde, plus que on apprend à l'école. Et l'attitude, j'étais très positif, très optimiste, finalement, vers le futur. Je vois la jeunesse aujourd'hui, elle a beaucoup de pessimisme. Elle regarde le futur avec peur. Je pense qu'une grande partie de la jeunesse, il y a 40 ans, regardait le monde avec optimisme. Je ne sais pas qui ait plus raison. Peut-être ils ont plus raison aujourd'hui que 40 ans. Au moment d'où ces rêves ont écoulé, j'ai découvert la science. Et pour moi, la science a été une façon de retrouver l'enthousiasme, d'apprendre, de vagabonder, de suivre ma curiosité et de changer tout. La science change tout, justement. Elle change l'image du temps. De participer à cette espèce de révolution continue que ça se passait pas dans le politique, mais ça se passe dans la pensée. Parce que la pensée, finalement, continue à être libre, continue à grandir, à apprendre. Et voilà, et c'est comme ça que je suis devenu scientifique, par curiosité, par passion du vagabondage.
Science et philosophie font-elles bon ménage, Carlo Rovelli?
Je pense que oui. Contrairement à ce que une partie considérable de mes collègues pense. De l'après-guerre, la science et la philosophie se sont beaucoup séparées. Et sont certaines parties allées dans des directions différentes. Et je pense que ça a été une perte de profondité pour les deux. Parce que la grande philosophie, toujours, en particulier la grande philosophie européenne, a toujours été très inspirée par les sciences contemporaines, les sciences Descartes ou Kant ou Hegel ont toujours été très intéressé à ce que se passait dans la science parce que c'est ce qu'on sait du monde. Mais aussi au contraire, la science est toujours nourrie de philosophie, énormément. Parce que la science, c'est penser le monde différemment. C'est pas seulement résoudre des problèmes techniques. Bien sûr, il y a aussi ça.
C'est une méthode d'interrogation du monde.
C'est une méthode d'interrogation du monde, de trouver les bonnes questions, trouver, sortir des questions qui sont mal posées et en trouver d'autres, et trouver des façons différentes pour penser, des conseils différents. Ce qui est beau dans la science, c'est que souvent, on commence avec une vision du problème, on cherche de résoudre le problème à l'intérieur de cette vision, on se rend compte que c'est la vision elle-même du problème qui est fausse. Donc il faut retourner en arrière, il faut remettre en cause ce qu'on pensait avant. Et c'est cette ouverture que je trouve fascinante. Et la philosophie est utile, parce que la philosophie, c'est une source d'inspiration continue, c'est une source de critique continue. Évidemment, les scientifiques font leur métier, les philosophes font leur métier. C'est pas que les unes peuvent faire le travail des autres. Mais on apprend les unes des autres.
Ben, je vous propose d'écouter le philosophe Vladimir Yankelevitch qui ne dédaignait pas la science. Il va répondre à la question que lui posait Jacques Chancel le 8 octobre 1979 et qui vous concerne, Carlo. Qu'est-ce que le temps ? Écoutez.
Ah bien, le temps, c'est la philosophie. C'est le maître problème, c'est le problème par excellence de la philosophie. Il a tous les caractères du problème philosophique, n'est-ce pas ? Évanouissant. Et je ne trouve rien de plus beau et de meilleur que la phrase de saint Augustin à propos du temps, n'est-ce pas ? Quand on me demande pas ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. C'est pour moi une évidence merveilleuse. Mais dès qu'on me demande ce que c'est, alors je m'embrouille. Je commence à chuchoter, à barguigner. Je ne sais plus où j'en suis. Et donc je ne peux reconnaître son évidence que de loin. Et de près, il me fuit. Mais l'axiome philosophique, c'est une évidence inévidente.
Oui.
Évidente de loin, approximativement, et redevenant évidente quand on a le dos tourné, mais inévidente quand on la regarde de près. Vous savez, c'est comme la parabole d'Animus et d'Anima, n'est-ce pas ? Quand Animus regarde par le trou de la serrure, Anima cesse de chanter. Et quand par hasard il s'éloigne, Animus, alors Anima recommence à chanter. Mais quand on ne la regarde pas, eh bien tel est le temps. Quand vous le regardez dans les yeux, alors le temps, c'est plus rien, ce sont des points, c'est une série, comme dans la musique dodécaphonique, c'est des allumettes que vous rangez les unes à côté des autres, ou des jeux d'enfants. Mais quand vous regardez quelle est son essence, quand vous regardez le temps dans le blanc des yeux, le temps s'enfuit.
Eh bien voilà, c'est toujours un régal d'entendre Yankelevitch avec sa musicalité philosophique et sa précipitation de pensée. Mais vous savez regarder le blanc, le temps, le blanc dans les yeux, vous aussi, Carlo Rovelli, comme Vladimir Yankelevitch.
Le temps, ça a été le temps en particulier, c'était une passion pour moi, une curiosité toute ma vie. Et dans mon livre sur le temps, qui est l'ordre du temps, je parle justement en détail de cette passage de saint Augustin qu'il nomme dans les Confessions où saint Augustin dit justement, si on me demande qu'est-ce que le temps, je ne le sais plus. Il me semble de savoir, mais si je cherche de lire. Et saint Augustin a eu des intuitions formidables sur le temps. Des intuitions que je pense, desquelles j'ai appris des choses et que je pense sont relevantes aujourd'hui pour comprendre le temps. Parce que la magie du problème du temps est qu'on a compris plein de choses sur le temps. Avec la relativité générale, avec Einstein, on sait des choses qu'on ne savait pas avant. Et on est certain de ces choses-là. On les a bien compris, on fait des mesures, c'est clair. Mais aussi, il y a des questions ouvertes, des énormes questions ouvertes. Il y a des mystères encore ouverts sur le temps. Donc c'est quelque chose, le temps c'est quelque chose qui nous interroge continuellement. Et saint Augustin, je pense, c'est le premier qui a compris que pour comprendre le temps, ça suffit pas de regarder comment les horloges bougent, comment les planètes se portent dans le ciel. Il faut s'interroger sur quel est le temps pour nous. Parce qu'il y a une côté de l'expérience temporelle qui ne dépend pas de la physique. Il dépend de comment nous pensons le temps. Et donc de toute la complexité de notre cerveau. Il dépend du fait que nous avons une mémoire. Et donc nous avons une espèce de connexion à un temps passé. Nous avons des expectations. Et donc une connexion au temps futur. Donc il y a un côté de ce que nous percevons comme temps qui dépend de nous. Alors, vous voyez, ces genres de problèmes, faire la distinction entre ce que dépend de nous, ce qui est extérieur de nous, une pensée philosophique nous aide à trouver un peu de lumière dans le mystère.
Vous aimez nager ?
Oui, beaucoup.
Vous aimez partir en mer ?
J'habite Marseille, j'ai une maison quand je me réveille le matin, la première chose que je vois, c'est la mer, et j'ai un petit pointu, c'est une barquette marseillaise, et quand je peux, je sors en pointu et je plonge dans la mer.
Et quand vous plongez dans la mer, vous ne plongez pas avec un de vos copains qui, lui, part avec des filets de pêche? Et dans les filets de pêche, parce que vous n'êtes pas pêcheur, vous êtes plutôt nageur, Carlo, mais vous avez des copains pêcheurs. Et quand dans leurs filets de pêche, il y a des poulpes, vous leur parlez aux poulpes ?
Ah non, je suis horriblement triste si je vois un poulpe pêcher.
Alors, vous moi, le rejetez à la mer avant de lui dire bonjour.
Ah oui, 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 absolument. Les poulpes, ce sont des animaux pleins de... Vous avez jamais rencontré un poulpe sous l'eau et eu une conversation avec le poulpe?
Conversation, pas vraiment, mais non, j'ai été très stupéfaite en lisant votre bouquin, Carlo Rovelli. Un des chapitres s'intitule « La conscience des poulpes ». À quel point, effectivement, les poulpes pouvaient nous parler et nous pouvons leur répondre? Les poulpes ont-elles une conscience? Ou ont-ils, je ne sais pas si c'est un féminin ou un masculin?
Bah, je ne sais pas, français, je ne sais pas. Le problème, c'est évidemment que la conscience, c'est une notion très, très vague. Et ce qui est très intéressant de poulpe, c'est que ils ont un système neuronal, un cerveau, si on peut dire, très complexe, mais très différent de nôtre. C'est pas comme un chat c'est pas très différent de nous, c'est le même, c'est un mammifère comme nous, et finalement on est cousins avec les chats. Donc on reconnaît des choses du chat, mais parce qu'on a des ancêtres communs très 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 voisins. Un poulpe par contre a un système très complexe qui s'est évolué de façon indépendante. Et donc il a sa propre complexité, c'est très 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 complexe l'intelligence de poulpe. Ils font des choses incroyables. Et ils ont des interactions complexes, mais c'est pas comme nous, c'est une autre espèce, vraiment une autre espèce. C'est une autre branche, une autre invention de la conscience dans la nature. C'est pour ça que je les trouve absolument fascinantes. Et je pense que tout le monde qui a eu l'expérience de plonger sous l'eau dans une mer assez claire et chaude, de passer un peu de temps à se rapprocher d'un poulpe, le regarder. Il se rend compte qu'après un peu, le poulpe réagisse. Il nous suit, il nous regarde, on a une interaction. Mais pas comme une interaction comme un chat ou comme un chien, une interaction avec une espèce d'alien, de créature qui vient de très très loin.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Carlo Rovelli. Pour notre plus grand bonheur, c'est Paul McCartney. Alors on dit bien un poulpe, et là j'ai lancé Paul McCartney, parce que dans votre livre vous parlez de Paul McCartney,
oui, c'est vrai.
Et vous parlez d'une chanson magnifique qui s'appelle Born on the Hill, mais ça c'est son copain.
C'est son copain.
Bon bah écoutez, il est pas mal le copain, donc on l'écoute, c'est John Lennon. Sharing all the world you do. Vous savez peut-être, Carlo Rovelli, que Paul McCartney a annoncé une tournée en France à la fin du printemps. Vous préférez Paul ou John?
Ah, ben,
ou les deux, mon colonel?
Ben, les deux, c'était absolument magique, mais entre les deux, je préfère John. John, ça cette chanson.
Pourquoi? Plus ben, parce poétique.
Non, c'est pas pour ça, pour le très poétique. Parce que cette chanson qui résume un peu tout l'esprit de John, un peu le grand rêve de monde où on partage au lieu de d'être en compétition, on collabore au lieu de se bagarrer. C'était le grand rêve de ma jeunesse, dans un certain sens. Et John Lennon l'a pas mal chanté.
Mais j'ai l'impression que vous êtes resté un peu rêveur, Carlo Rovelli, car vous continuez à voyager à travers le monde.
Absolument.
Mais quand vous voyagez pour votre travail de physicien, vous en profitez pour vous échapper et aller vivre dans des sociétés traditionnelles. Vous allez vous ressourcer avec ces savoirs que vous ignoriez et qui vont peut-être rentrer à l'intérieur de votre possibilité de penser la physique moderne.
Oui, je suis un peu rêveur, mais la chanson ici qu'on vient d'entendre dit « I'm a dreamer, but I'm not the only one ». Je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'on sera ensemble.
Mais vous trouvez qu'il y a... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de rêveurs dans le monde.
Ah, je partage votre opinion complètement. Il n'y a pas assez. Et je pense que l'exagération des rêves des années 60 et 70, je pense qu'on est en train d'être extrêmement opposé de l'oscillation. Et on est dans un monde où semble impossible de rêver, semble impossible de penser le monde différemment. Et tout le monde a l'impression que bon, c'est ça, le monde est comme ça, il n'y a rien à faire, ça c'est la réalité, il faut s'adapter, point. Et si l'humanité avait pensé comme ça, dans le passé, on serait encore dans les caves, on n'aurait pas eu la civilisation, on aurait encore les pharaons, je sais pas. Et on vit dans le monde dans lequel on vit, parce que dans le passé, il y a eu plein de gens qui ont rêvé une société différente, une justice différente, un monde différent, un savoir différent. On est le produit des rêves de nos grands-pères. Donc, il faut continuer à rêver, je pense. En plus, c'est mieux vivre avec.
Alors Bachelard, le grand scientifique et philosophe Gaston Bachelard, disait que le rêve était nourricier pour tout scientifique. On évoquait vos expériences en Afrique, où vous prenez le temps de vivre au rythme des sociétés traditionnelles qui vous accueillent. Est-ce que le rêve et la connaissance des autres sociétés non occidentales vous permettent de penser le monde autrement?
Oui, je pense pas qu'on doit se mettre dans l'esprit que les autres cultures savent plus que nous, mais ils savent autre chose. Et donc chaque fois qu'on s'ouvre à quelque chose de différent, on apprend. J'aimerais le faire plus, mais quand je peux, je voyage. Quand je peux, je vais chercher des gens le plus possible différents de moi. Et en Afrique, je suis allé aussi pour ça. Et la surprise, souvent, que quand on trouve les gens le plus possible différents de nous, on trouve des frères, des copains avec lesquels on a beaucoup en commun.
Alors les physiciens, aussi reconnus que vous, d'habitude procèdent par certitude et par découverte. Et vous, au contraire, depuis maintenant plusieurs livres, vous nous invitez à un vagabondage de la pensée et à une autre méthode d'expérimentation de notre pensée scientifique. Vous dites qu'entre l'incertitude et la certitude, il y a certes des différences, mais qu'elles ne sont pas des différences de valeur et qu'il faut peut-être préférer l'incertitude. Dans le dernier ouvrage que vous publiez ces jours-ci, Carlo Rovelli, il est question d'Albert Einstein. Je voudrais qu'on écoute sa voix. Albert Einstein va commenter la 4e explosion atomique dans le Pacifique. C'est une archive de juillet 1946.
Just as we use our reason to build a dam to hold a river in check,
de même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre, et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela. Mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre 1 million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant, sinon la société humaine disparaîtra peut-être à jamais dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible encore.
Alors nous venons d'entendre cette archive datant de juillet 1946, et vous, Carlo Rovelli, vous avez un chapitre qui s'intitule « Les nombreuses erreurs d'Einstein ». Vous dites que c'est sans aucun doute le plus grand scientifique du XXe siècle, mais cela ne signifie pas pour autant que ce qu'il pensait était exact et qu'il ne se trompait jamais, bien au contraire.
Oui, c'est une émotion d'entendre sa voix, parce que pour quelqu'un comme moi, c'est un mythe, évidemment, pour l'immensité de sa pensée, mais aussi pour ces choses qu'on vient d'entendre, pour son engagement pour l'humanité et sa clarté sur les risques, les problèmes de l'humanité.
Les conséquences des découvertes scientifiques.
Des découvertes scientifiques auxquelles lui-même il avait participé. Je pense que nous ne devons pas oublier que c'est pas seulement la planète qui se réchauffe, les espèces qui disparaissent, mais nous avons encore des dizaines de milliers de bombes nucléaires qui sont dans les mains des gens qui sont pas très fiables peut-être. Donc le risque est encore là, il semble moins proche de comme il semblait dans les années 50-60, mais le risque nucléaire est très très proche. Et quand la planète devra faire face à toutes les difficultés de réchauffement, les bombes atomiques sont là. Et j'espère que l'humanité soit raisonnable, comme Einstein est en train de le dire. Vous me demandez des erreurs d'Einstein, de la certitude et de l'incertitude. Je pense qu'il y a une idée fausse de ce qu'est la connaissance scientifique. On dit souvent ça, c'est scientifiquement prouvé, pour dire c'est certes. Et je pense que c'est complètement faux dire ça, parce que la science est le savoir qui, dans un certain sens, rejette la certitude. C'est le cœur de la science, le rejeter la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la science peut continuer à avancer parce qu'elle met en doute les certitudes que nous avons et trouve des explications meilleures, trouve un pensée plus fort, et ça avance comme ça. Donc le cœur de la science, c'est le doute de Descartes, c'est la remise en cause des idées acquises. Et grâce à cela, si on continue à remettre en cause ce qu'on pense d'avoir connu avec certitude, on apprend de plus en plus. Ce que veut dire que la science nous donne de plus en plus une fiabilité sur les problèmes concrets que la science peut dire quelque chose. Il y a plein de choses sur lesquelles la science ne sait pas. Mais là où la science peut dire quelque chose, elle dit la chose meilleure qu'on sait aujourd'hui. C'est pas la certitude, mais c'est mieux que tout le reste. Parce que c'est une pensée qui est toujours basée sur comparer avec le reste. Et s'il y a une idée opposée, on la prend au sérieux, on la teste, on discute, et on voit quelle est la meilleure. Donc finalement, nous n'avons pas besoin de certitudes dans la vie. Nous ne vivons pas de certitudes. Nous vivons de bonnes idées qui soient fiables et le plus fiables possible. Et c'est ça que la science nous donne. Donc, cette doute continu, je pense, c'est le cœur et c'est la beauté aussi de la science.
Je vous propose d'écouter Hubert Reeves. Hubert Reeves, c'était en 2017... Est-ce que un scientifique doit-il accepter de ne pas comprendre l'univers? Écoutons-le.
La fameuse question, est-ce qu'il y a un grand ingénieur? Vous voyez, on voit qu'on est dans un univers très organisé. Et alors, il y a trois types de réponses à cela. Il y a une première réponse qui est celle du croyant occidental, qui dit, il y a un Dieu. Et ce Dieu est une personne, et vous pouvez le prier. Il y a le croyant oriental qui dit non, c'est pas une personne, quand vous parlez, il y a personne au bout de la ligne. C'est un grand principe, le Tao ou autre chose. Puis une version plus moderne qui consiste à dire, c'est le hasard, il n'y a rien de tout ça, vous inventez des thèmes, vous rêvez, tout cela. Ma réaction, c'est de dire, tout ça, ce sont trois solutions, je dirais, de facilité. C'est des solutions à notre échelle. C'est ce que nous sommes capables d'inventer quand nous nous demandons qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette organisation, cette intelligence de la nature. Et moi, je pense que cela ne fait que manifester notre limitation à comprendre la réalité. Et je cite souvent le cas de mon chat. Je dis, vous n'auriez pas envie d'enseigner la géométrie à votre chat. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'il n'est pas capable et que de toute façon, ça ne l'intéresse pas. Eh bien, je pense que nous sommes une espèce animale, comme des millions d'espèces animales. Nous avons une intelligence, mais comme celle du chat, elle est limitée et que ce thème-là nous dépasse et que le mieux, c'est de le reconnaître et de vivre avec cela.
Nous venons d'entendre Hubert Reeves. On voit bien que votre manière de faire la science est proche de certains autres grands scientifiques comme Hubert Reeves. C'est-à-dire que on a l'impression, nous néophytes de la physique moderne, en lisant vos livres et en vous écoutant, Carlo Rovelli, que être un scientifique qui cherche encore tous les jours, c'est comprendre que nous ne sommes pas au centre de l'univers. Ça participe aussi d'une sorte de modestie.
Oui. Et ce morceau que je viens d'entendre, je pourrais pas être plus d'accord avec ça. Je pense pas que cela veut dire que nous devons ne pas être fiers de tout ce qu'on nous allons comprendre. C'est incroyable la quantité des choses qu'on comprend. La science a compris des choses. On sait qu'est-ce que s'est passé il y a 14 milliards d'années dans l'univers. On sait comment ça fonctionne, certaines cellules. On est capable de guérir des maladies qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir guérir. Donc les résultats sont vrais, sont forts. C'est de la vraie connaissance. Mais on sait que les choses qu'on ne sait pas sont beaucoup plus de ce qu'on sait. Et faire face à notre ignorance, je pense que c'est essentiel, soit pour pouvoir comprendre encore plus, et aussi pour ne pas se faire prendre de ce hubris, cette absurde idée qu'on est à la fin de savoir, qu'on a tout compris, qui nous fait certainement du mal. Les scientifiques font cette erreur des fois. Ils pensent on est arrivé à la théorie finale du tout, on a tout compris, on explique tout, on sait. Non, on ne sait pas comment l'univers est né, on ne sait pas pourquoi il y a ces lois et pas d'autres, on ne connaît pas les vraies lois de l'univers encore, on voit des trous noirs, on ne sait pas comment ils vont mourir dans le futur, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, plein de choses. On ne sait pas comment la vie a commencé sur la Terre. Il y a 3000 questions ouvertes et plus on apprend, plus on se rend compte des questions ouvertes qu'encore il y a. Et on peut très bien se demander, je pense c'est très légitime, de dire est-ce qu'il y a des questions que nous n'avons pas l'intelligence de comprendre. On ne sait pas. Moi, je tendrais à dire oui, il y a certainement des choses que tout simplement ne sont pas très intelligentes. Nous sommes justement des morceaux de nature. Nous ne sommes pas une... notre esprit n'est pas quelque chose d'absolu, extérieur à la nature, qui regarde avec une logique parfaite, une rationalité parfaite, une intelligence supérieure. Non, nous sommes des petites machines créées par la nature, comme les autres animaux, qui arrivent à comprendre ce qu'ils arrivent à comprendre. Et c'est formidable.
Mais on est doté de l'appétit de vouloir comprendre ce qui nous dépasse.
Je pense que contrairement à d'autres espèces animales, ça c'est une des choses qui nous caractérise. Nous sommes incroyablement curieux. C'est un peu l'histoire de notre espèce. La nôtre est une espèce qui a dû changer d'habitat de façon répétée, qui a dû s'adapter beaucoup et qui a trouvé un avantage compétitif très fort avec sa capacité de s'adapter fortement et avec ces lobes frontales qui nous caractérisent, notre espèce, qui ont une très grande capacité de mettre ensemble des idées, de prédire le futur. Beaucoup plus loin qu'un chat, nous savons. Moi, je sais ce que va se passer probablement dans 2 ans. Mon chat, non, on ne le sait pas. Donc, nous avons cette.
Qu'est-ce qui va se passer alors dans 2 ans?
Moi, je ne sais pas ce que va se passer dans 2 ans. Mais je peux imaginer que je vais prendre la retraite peut-être dans 2 ans. Je peux faire de plans dans 2 ans. Ce que mon chat ne fait pas. Et Donc, bien sûr, nous avons une curiosité incroyable. C'est une des choses desquelles, je pense, nous sommes plus fiers. C'est belle, cette curiosité, parce que ça nous a permis d'avoir toutes les choses bonnes qu'on a. Mais nous sommes très, très, très limités, sans aucun doute. Et je ne pense pas que nous comprenons à fond la nature, même aujourd'hui. Au cœur de la physique, il y a la mécanique quantique, qui est la théorie aujourd'hui de la centrale de la physique fondamentale. On ne la comprend pas encore bien. On se dispute, ce n'est pas du tout clair. Voilà, là, c'est clairement une limite que nous avons très fort, même dans l'écriture et la compréhension des lois physiques qui marchent.
Si j'ai bien compris vos livres, Carlo Rovelli, et je voulais vous remercier par cette qualité pédagogique que vous avez de nous donner des clés de l'univers et de la compréhension du monde de manière aussi claire et compréhensible par n'importe qui d'entre nous, j'ai cru comprendre qu'il y avait l'idée, quand même, que les savoirs scientifiques, quand ils sont acquis, quand ils sont vérifiés, constituent une sorte de sédimentation, de socle de savoir qui permettent d'aller encore plus loin. Et que la science n'est pas faite de retour en arrière permanent et de contestation de ce qui a été prouvé. Et ça, ça peut nous permettre d'être optimistes quand même, non ?
Oui, oui, oui.
Alors, c'est peut-être pas pour autant qu'il y a un progrès dans la science.
Si, il y a un progrès. Je pense qu'il y a un progrès. Je pense que on a exagéré dans le passé dans les deux directions. C'est-à-dire on a exagéré au 19e siècle en pensant on ne fait qu'apprendre, on va tout comprendre, le grand progrès qui nous amène tout peut aller de mieux en mieux. Mais au 20e siècle, on est un peu tombé aussi dans la direction opposée. On s'est aperçu qu'il y avait des idées que semblaient claires et n'étaient pas claires, des choses qu'on avait cru comprendre et c'était pas comme ça. Par exemple, Newton a compris la mécanique classique, on a appris à l'école, ça marche très bien, très bien, très bien. Sauf qu'au XXe siècle, on a compris que c'est pas comme ça. Il y a la relativité, il y a la mécanique quantique. Et donc, on a un peu pris peur. On a dit, mais alors on peut être sûr même pas des choses qu'on comprend. Et bien sûr, on n'est pas sûr que les choses sont exactement comme ça. Mais ce que Newton a compris, quand même, c'est vrai. C'est vrai, pas universellement, mais c'est vrai dans un certain domaine. Donc ça reste vrai. Les ingénieurs continuent à utiliser l'équation de Newton. Quand on a compris que c'est la Terre qui va autour du Soleil et pas au contraire, hein, on l'a compris à toujours. Etc., etc. Donc, les choses qu'on comprend, on les comprend. Sauf que peut-être on peut le comprendre mieux demain. Moi, c'est comme si je vais vivre dans une nouvelle ville. Je viens de notre pays, j'arrive à Paris, et je commence à m'orienter. Et je commence à avoir une image de Paris. Et plus le temps passe, plus l'image devient précise. Donc, c'est jamais complètement précise, mais c'est toujours meilleur. Et c'est comme ça la science. On est arrivé dans le monde, on le comprend de plus en plus. On n'est pas arrivé à la fin, mais ce qu'on a compris, on a compris.
Dernière question, Carlo Rovelli, votre définition actuelle de la vérité ?
Ah non, ça c'est une question trop, trop difficile.
Ben, vous nous invitez à nous la poser, de par les interrogations que vous nous donnez sur notre appartenance au monde, notre petitesse, le vertige des astres, l'immensité du monde. Et nous, on revient à la première question. Qui êtes-vous, vous ?
Moi, je pense que une fois qu'on se rend compte que nous, les humains, ne sommes pas dehors de la nature, nous sommes une partie de la nature. On se rend compte que les valeurs, la vérité, ce qui est positif, le bon, ne viennent pas de l'extérieur, viennent de nous. La civilisation entière a eu un peu la peur de dire, s'il n'y a pas Dieu dehors de nous, alors rien n'a du valeur. Mais non, c'est le contraire. Plein de choses ont de valeur. Le valeur vient de nous parce que nous sommes des porteurs de valeur. Nous sommes des chercheurs de vérité. Nous avons dedans nous un poussé vers la méchanterie, mais aussi vers la bonté. Donc la bonté, ça vient de nous. La recherche de la vérité, ça vient de nous. Je pense que la vie est à une très grande intensité naturelle. Moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de penser, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de manger, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de connaître plus le monde.
Mais merci infiniment, Carlo Rovelli. Je rappelle que votre dernier ouvrage sort ces jours-ci, sous le titre « Écrit vagabond » chez Flammarion, et que simultanément paraît en livre de poche votre avant-dernier ouvrage, lui aussi extrêmement passionnant, qui s'intitule « L'ordre du temps ».
On part de l'altitude, toi et moi, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Temps à se perdre tout le temps, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu temps, perdu. Tous ces gens m'avaient prévenu, on descend, on l'a voulu. Perdu, sans s'entendre sur notre but, on s'ennuie fort, on se tue. Les gens, les autres, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Perdu, tous ces gens m'avaient prévenu. On descend, on l'a voulu. Perdu, sans s'entendre sur notre but. On s'ennuie fort, on se tue. Perdu, perdu, perdu. Tous ces gens m'avaient prévenu. On se déchire, on se tue. Loin de nous, loin de nous, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira.
Et voilà, c'est avec cette voix d'Angèle qui nous fait partir au septième ciel, exactement comme Carlo Rovelli, que nous allons nous quitter. Merci à Pierre-Yves de Rolin qui était à la technique ce soir, à Élodie Royenne, Sophie Dazard et Louise Douillet, à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux, et à Claire Destacan qui a réalisé ce soir cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka.